Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Léa Sabourin, Marguerite Caton, Maëlys André, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Nouvelle série donc consacrée à la police cette semaine. Demain, nous nous pencherons sur les questions de violence raciale, notamment aux États-Unis. Mercredi, nous nous intéresserons à la corruption quand la frontière entre gangsters et policiers se fait particulièrement ténue. Jeudi, enfin, nous demanderons si on assiste à un retour d'un état policier en Égypte et en Tunisie. Mais aujourd'hui, alors que les manifestations des Gilets jaunes se poursuivent en France et que l'on a dénoncé les violences policières qui s'y déroulent parfois, gestion des foules, la fabrique de la violence, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Quand on a à disposition de telles armes, c'est sûr qu'à un moment, même s'ils étaient de mieux intentionnés du monde, c'est sûr qu'à un moment, il y aurait des accidents. Et voilà, je ne devrais pas avoir à le dire à voix haute, mais on ne jette pas des explosifs sur les gens.
Hé, t'as touché une dame, oh, oh, ça va pas, là.
J'ai reçu un flashball à ce niveau-là, et je tombais par terre pendant une heure, je suis KO. Là, j'ai eu une fracture de la mâchoire, j'ai eu 5 dents cassées à ce niveau-là, et peut-être la paralysie, ça pas trop, si ça va se remettre ou pas.
Je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. A l'inverse, j'ai vu des manifestants attaquer systématiquement nos forces de sécurité et attaquer aussi des journalistes.
Tout le monde me dit apparemment ils n'ont pas le droit de tirer au niveau du visage, que c'est qu'au niveau des pieds, que voilà tout ça. Et que là maintenant je suis là, j'ai perdu un œil, c'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur une petite ou un petit vieux qui était à côté de moi. Et voilà, que ça serve d'exemple.
Ce samedi marquait la 11e journée de mobilisation des Gilets jaunes, un rendez-vous hebdomadaire entre les forces de l'ordre et les manifestants qui charrient chaque semaine son lot de blessés, de mutilés et de questions sur les bien fondés des outils et des stratégies employées par les forces de l'ordre françaises. En cause, l'usage disproportionné d'armes dites de force intermédiaire, telles que le LBD-40, le successeur du flashball, ou les grenades de désencerclement. Ce fut le cas ce week-end encore avec une figure du mouvement, Jérôme Rodriguez, blessé à l'œil à Paris par une balle de flashball, selon ses dires, ce que réfute le secrétaire d'État à l'intérieur Laurent Nunez, qui affirmait hier que rien ne confirmait un usage d'un LBD qui aurait touché M. Rodriguez. En revanche, il a bien confirmé l'utilisation d'une grenade de désencerclement. Si les effets parfois mortels de ces armes font encore débat en France, leur usage, lui, est totalement prohibé par les forces de police allemandes, britanniques, belges ou suédoises, reléguant ainsi les Français au fond de la classe avec les polices italiennes et espagnoles accusées également de nourrir la colère et la violence de leurs manifestants. Alors, comment nos voisins européens gèrent-ils les mouvements de contestation et pour quelle efficacité, que révèle-t-il des mécanismes de violence en contexte de maintien de l'ordre? Policiers ou manifestants, qui est responsable des montées de violence? Les méthodes employées par les forces de police dépendent-elles aussi des évolutions stratégiques des manifestants? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Fabien Jobard. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Fabien Jobard. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, associé au centre Marc Bloch de Berlin, et puis co-auteur avec Jacques Demaillard de Sociologie de la police, politique, organisation, réforme, qui était paru chez Armand Collin. Durant les manifestations dites des Gilets jaunes, Fabien Jobard, plusieurs personnes ont été blessées par des tirs de flashball. Cette nouvelle affaire avec Jérôme Rodriguez, dont je parlais dans mon introduction, prouve une fois encore qu'il y a un problème avec ces armes utilisées en contexte de manifestation. Pourquoi cette recrudescence de bavures, d'accidents avec ces armes non létales? Est-ce qu'il existe spécifiquement dans ce mouvement un problème avec leur utilisation?
Oui, je pense, pour au moins deux raisons. D'abord, les forces de police, pas toutes les forces de police, mais les forces de police se sont vues équipées de plus en plus depuis le début des années 2000 avec ces armes dans des contextes de maintien de l'ordre, alors que ces armes que vous avez mentionnées, le lanceur de balles de défense, son prédécesseur, le flashball, n'étaient pas prévues au départ pour des opérations de maintien de l'ordre. Elles étaient prévues pour, dans des cas de légitime défense, lorsque des policiers sont agressés, notamment sont agressés par des groupes violents. Donc c'est une arme qui est au départ étrangère au maintien de l'ordre. Et la deuxième raison, elle a à voir avec la forme du mouvement des Gilets jaunes. Ce sont des manifestations qui, pour beaucoup, pas pour toutes, mais pour beaucoup, étaient des manifestations non déclarées, avec des itinéraires imprévus, qui ont entraîné une surmobilisation d'effectifs de police. Et donc, on a fait appel pour la gestion de ces manifestations à des forces de police qui ne sont pas spécialisées dans le maintien de l'ordre et qui sont plutôt spécialisées dans ce que les policiers appellent les violences urbaines. Une notion beaucoup plus imprécise, beaucoup plus confuse et qui entraîne un niveau de force par la police beaucoup plus immédiat, beaucoup plus rapide, beaucoup plus élevé et notamment le suremploi de ces armes. Et donc c'est la combinaison un petit peu de ces formes manifestantes qu'a choisi en quelque sorte le mouvement des Gilets jaunes et de la diffusion de ces armes qui rend évidemment le nombre d'accidents tout à fait impressionnant aujourd'hui. C'est-à-dire que on a recensé, je crois, à ce jour, 18 personnes qui auraient perdu un œil au cours de ces manifestations-là. Je passe sur les cas de décès, sur les cas de mutilation. C'est un niveau de violence que on n'a pas vu en Europe depuis extrêmement longtemps.
C'est lié, selon vous, à la nature même de cette contestation des Gilets jaunes. Est-ce que la doctrine traditionnellement utilisée par les forces de l'ordre françaises, est-ce que cette doctrine aujourd'hui a été remise en cause par la nature même de ce mouvement ou est-ce que finalement la doctrine est toujours la même?
Je pense que la forme de la manifestation et notamment le fait que un des principes constitutifs du mouvement ou des mouvements des Gilets jaunes, c'est le refus de la délégation, le refus de la représentation, ça entraîne pour les policiers très strictement un refus de, une difficulté à trouver des interlocuteurs. Donc on ne s'entend pas sur le lieu de départ de la manifestation et on s'entend pas non plus sur le parcours. Or, un des fondements de la doctrine du maintien de l'ordre, c'est que l'on recherche le dialogue avec les manifestants. Donc là, au préalable, c'est pas qu'il y a une hostilité de la part des manifestants à l'égard de la police, mais c'est qu'il y a un refus du principe de négociation avec des intermédiaires du pouvoir politique. D'où cette revendication aussi à Paris, mais pas dans les autres villes, mais cette revendication à Paris d'aller à l'Élysée. Et alors là, évidemment, pour des responsables de maintien de l'ordre, si vous voulez, on ne va pas à l'Élysée. Ou bien ce choix de parcours manifestant, les Champs-Élysées. Dans l'histoire de Paris, depuis le 6 février 34, on ne manifeste pas sur les Champs-Élysées. Alors donc, la préfecture mobilise des forces très importantes de maintien de l'ordre qu'elle est obligée de disperser sur une surface très grande et donc elle fait appel à des forces qui elles ne connaissent pas la doctrine de maintien de l'ordre. Je veux dire, ne connaissent pas. Bien sûr, ils ont eu des jours de formation à l'école de police, par exemple. Tous les gardiens de la paix ont 3 jours de formation en maintien de l'ordre. Mais ce qu'ils connaissent, c'est cette notion plus compliquée et à mon avis qui appelle discussion publique, qui est cette notion de violence urbaine. Et on ne sait pas très bien ce que c'est que la notion de violence urbaine. C'est en gros la manière dont on va faire la police en banlieue dès qu'on a affaire à plus de 3 personnes qui paraissent un peu agitées.
On ne discute pas, on ne négocie pas, il n'y a pas cette tradition. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Fabien Jobard, parce que ça veut dire que traditionnellement, dans les opérations de maintien de l'ordre, lorsqu'on encadre ces manifestations, il y a cet effort de discussion avec les cadres, avec les manifestants sur place.
Absolument. Comment ça se passe ?
Parce qu'il y a des pays qui font beaucoup ça. Je pense par exemple à l'Allemagne ou à la Belgique, où il y a vraiment une culture de la désescalade, où on essaye de rentrer vraiment en dialogue avec les manifestations, avec cette culture de la désescalade même, où on négocie d'une certaine manière aussi les espaces vers lesquels on a le droit ou pas de manifester. Ça existe traditionnellement. On l'a presque oublié. Non, mais quand on voit les images depuis 3 mois, on se dit que ça, c'est tout à fait étranger à notre doctrine française. Mais non.
Non. Il faut pas croire. C'est vrai que on parle beaucoup actuellement de désescalade et on a sans doute contribué à réintroduire ce vocabulaire-là dans la discussion par nos différents travaux Depuis quelques années, mais en réalité, la doctrine du maintien de l'ordre en France poursuit aussi l'objectif de la désescalade, de la pacification des manifestations et en tout cas de la négociation avec les organisateurs. Donc, si vous voulez, le modèle, l'idéal type de la manifestation pour les policiers, c'est celle qui se trouve d'abord encadrée par les manifestants eux-mêmes. Ça, c'est un point absolument crucial. C'est que dans une manifestation, il y a un service d'ordre. Et l'officier de liaison des forces de police est quelqu'un qui négocie, qui discute avec le responsable du maintien de l'ordre. Généralement, d'ailleurs, en tout cas à Paris, ils se connaissent très bien. Ça fait des années qu'ils battent le pavé ensemble, prennent des nouvelles de leurs femmes et de leurs enfants avant le début de la manifestation. Et l'une des premières questions que l'officier de liaison pose au responsable du service d'ordre manifestant, c'est est-ce que vous aurez du monde ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes, vous, déjà, sans même notre intervention policière, est-ce que vous êtes en mesure de contrôler à peu près la manifestation ? Là, évidemment, dans le contexte des Gilets jaunes, où vous avez vu tout le... Encore une fois, le refus de la représentation est un principe constitutif de ce mouvement. Et donc ça passe par la non-négociation, pas même sur le parcours. Alors, attention, hein, ça s'aménage, on apprend au fil du mouvement. Aujourd'hui, les manifestations qui se déroulent les samedis, on s'entend sur un parcours, ne serait-ce qu'approximatif. Mais aussi, bien sûr, alors le refus du service d'ordre. Et donc, la différence avec l'Allemagne et la Belgique, en tout cas l'Allemagne, que vous avez mentionné, elle est qu'en Allemagne, même lorsque les manifestations sont organisées par des protestataires qui ont l'affrontement avec l'État comme culture, protestataires d'extrême gauche, protestataires d'extrême droite, on cherche, la police cherche jusqu'au tout dernier moment le dialogue avec les manifestants. Et c'est ça qui fait la différence cruciale avec la gestion, à mon avis, du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que même des manifestations d'antifa, d'antifascistes, des manifestations d'anticapitalistes, des manifestations de, comme on disait avant, d'antimondialisation, ou des manifestations d'extrême droite, hein, qui refusent le principe même de l'État démocratique, on recherche le dialogue avec eux jusqu'au bout. On ne lâche jamais cette affaire-là.
Mais est-ce que ça a été le cas là aussi, Fabien Jobard? Parce que vous avez entendu aussi certaines voix qui se sont élevées pour critiquer le gouvernement, pour dire qu'au fond, il avait fait exprès de provoquer ces violences, qu'en tout cas, les dispositifs qui avaient été déployés, les tactiques des forces de l'ordre montraient qu'on n'avait pas tout fait précisément pour éviter les violences, et que d'une certaine manière, sous-entendant qu'au fond, ces violences décrédibilisaient le mouvement et donc servaient l'exécutif. Est-ce qu'il vous semble, là on est quasiment à 3 mois de manifestations consécutives, est-ce qu'il vous semble que cette critique-là n'est pas totalement à exclure et que d'une certaine manière, le politique, en l'occurrence l'exécutif, a joué pour que ces violences puissent émerger? C'est très compliqué, j'essaye de faire attention à ce que je dis, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux souligner là, Fabien Jobard?
Ben moi, j'ai pas de réponse, parce que je suis pas dans le secret des dieux, et je pense que ce sont les historiens, alors les historiens du contemporain, n'est-ce pas, qui pourront vous répondre lorsqu'ils auront eu suffisamment d'interlocuteurs, voire des sources écrites qui documenteraient la volonté par les forces de l'ordre, c'est-à-dire la volonté politique, hein, d'avoir un engagement minimal, de laisser faire des destructions, dégradations, etc.
On n'a aucune information jamais... là-dessus, parce que le secret des dieux, en fait, il se joue dans un endroit qui est très très concret, qui est la salle de commandement.
Absolument.
Hein, où
absolument.
Là, on a directement absolument. Ce rapport du politique avec les responsables des forces de police. Et d'ailleurs, là encore, dans notre comparaison européenne, c'est tout à fait spécifique. En fait, je ne sais pas si il y a d'autres exemples en Europe où, effectivement, la salle de commandement, il y a ce frottement aussi proche entre le responsable politique et le responsable des forces de l'ordre. Mais c'est là que ça se joue le secret des dieux. On doit avoir quelques informations, quand même.
Oui, mais vous savez, il y a des choses que on dit, c'est ce genre de Si on laisse faire les manifestations de manière à ce qu'elles dégénèrent pour pouvoir décrédibiliser le mouvement, vous n'aurez évidemment aucune trace écrite de ça. Mmh. Vous aurez à peine une trace dite. Vous aurez souvent des retards dans des ordres qui pourraient être donnés. C'est vrai que vous avez raison de souligner que le maintien de l'ordre est une affaire éminemment, voire exclusivement politique. C'est-à-dire que c'est le domaine
en France.
C'est le domaine d'action policier dans lequel les policiers sont le plus tenus par le politique. C'est le préfet qui commande le maintien de l'ordre. Or, le préfet est une instance politique, est nommé en Conseil des ministres. Et à Paris, la spécificité de ces maintiens de l'ordre, c'est que vous pouvez avoir un représentant du ministre de l'Intérieur, voire le ministre de l'Intérieur lui-même, comme des photos publiées lors de l'affaire Benalla l'ont montré, qui à son strapontin, voire son siège à la salle de commandement. Dans d'autres pays, on laisse faire la police, c'est-à-dire on considère que le maintien de l'ordre est une affaire de professionnels, que ces professionnels sont les policiers et on leur laisse les clés de la maison, en quelque sorte, à partir du moment où on a fixé, où le politique a fixé les règles générales relatives à telle ou telle manifestation. Et il y a même des ministres de l'Intérieur qui peuvent se voir mis en cause par des commissions d'enquête parlementaire parce qu'ils auraient donné par téléphone une indication ou un ordre à leurs forces de police. C'est très fréquent dans les pays de common law. Ça ne l'est pas du tout dans les pays latins comme la France où effectivement, parce qu'il y a une vieille méfiance toujours du politique à l'égard des corps constitués ou pardon à l'égard des forces armées, le politique tient la laisse la bride la plus courte possible sur la police. En tout état de cause, ce qui est fait, c'est bien de l'ordre de la décision politique.
Je reviens, Fabien Jobard, sur ces fameux flashballs dont on parlait. Face au constat qu'on a évoqué, il y a un certain nombre de voix qui sont élevées pour demander la suspension de leur utilisation. Je pense au défenseur des droits Jacques Toubon, mais je pense aussi à la Ligue des droits de l'homme. Il y a plusieurs représentants syndicaux aussi. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir à court, moyen terme, la fin de l'utilisation de flashballs? Et puis, vous allez nous rappeler, peut-être Fabien Jobard, dans le paysage européen, quand même, qui utilise et qui n'utilise pas des flashballs et pour quelles raisons? Puis on va regarder aussi ce que nous dit peut-être le droit européen en la matière. Parce qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir si, du point de vue du droit, tout cela est tout à fait normal. Fabien Jobard.
Alors, je pense que le flashball est une arme pour le moins exotique en maintien de l'ordre. Parce que la doctrine de maintien de l'ordre, elle est fondée sur l'idée que vous repoussez des foules et vous n'attaquez pas des individus.
On évite le contact.
Et si on utilise des moyens de force, c'est d'abord des moyens qui agressent la sensibilité, qui agressent les sens, comme évidemment le gaz lacrymogène, ou bien l'eau, les lanceurs d'eau, les camions-pompes, les canons à eau, plutôt que des moyens tels que la matraque, la charge ou en France, donc, les flashballs de divers natures qui agressent les personnes et qui visent les individus. C'est-à-dire que ce sont des armes qui ont été pensées pour la légitime défense et qui donc visent à stopper quelqu'un qui vient immédiatement, c'est comme dit le droit, un danger actuel et immédiat, qui vient immédiatement s'en prendre à un policier. Ce policier tire et pour éviter de tuer, il emploie le flashball qui immobilise la personne. Et effectivement, à moins de 10 mètres, l'arme est précise. L'ambiguïté du flashball en manifestation, c'est que ce sont des armes qui sont utilisées contre des foules, contre des masses, contre des groupes, qui tirent donc de manière imprécise, indistincte, à une distance où il est difficile d'invoquer la légitime défense, d'une part, du point de vue juridique, et puis du point de vue évidemment balistique, elles deviennent imprécises, passées, alors selon les armes, flashball ou LBD, passées 10 ou 15, voire pour les LBD, 40 mètres.
Le LBD, c'est le successeur du flashball. Hein.
Alors c'est le successeur du flashball, mais qui lui met une autre difficulté sur la table. Le flashball a été mis en cause parce qu'il est imprécis au-delà de 7 ou 10 mètres. Bien. Donc on est allé chercher une autre arme, d'ailleurs qui est produite par un autre fabricant, qui est un fabricant suisse. Le flashball était une invention française. Donc on est allé voir ce fabricant suisse et on a commandé des milliers de flashballs. Le flashball est précis jusqu'à 40 mètres. Mais 40 mètres, c'est une sacrée distance. C'est une distance à laquelle on ne peut pas supposer qu'il y ait un danger actuel et immédiat. de prise à partie du policier. Et puis surtout, pour qu'un projectile de 45 mm soit précis à 40 mètres, il faut que la vitesse à la sortie du canon soit très grande. Et donc que l'énergie qui est véhiculée par ce projectile soit très grande. Et c'est ce qui implique, c'est ce qui explique les très forts impacts, les très fortes blessures engendrées par le flashball. Il n'y a pas de solution. Soit vous avez une arme imprécise parce qu'elle tire à faible vitesse, l'énergie, donc la force d'impact est faible, soit vous voulez la précision, mais à ce moment-là, la force d'impact est très forte. En tout état de cause, ça rend cette arme en maintien de l'ordre très bâtarde.
On est les seuls en Europe à utiliser le flashball ou le LBD en contexte de maintien de l'ordre.
Alors, en contexte de maintien de l'ordre, on est quasiment les seuls. Vous pouvez effectivement avoir des flashballs dans des contextes... c'est à chaque fois dans les pays européens, dans des contextes très, je dirais, périphériques au maintien de l'ordre traditionnel. Alors, par exemple, vous pourrez avoir usage de maintien de l'ordre. Vous avez eu usage de ce type de munitions dans les affrontements autour de l'Irlande du Nord. En Espagne, sur les deux enclaves de Ceuta et Melilla, c'est-à-dire dans des zones dans lesquelles le politique fait le calcul que l'usage de la force est soumis à d'autres règles. Un peu, d'une certaine manière, comme le flashball en France, que l'on a introduit, encore une fois, pour ces violences urbaines. On se dit, bon, en banlieue, de toute façon, on utilise très vite un niveau de force beaucoup plus élevé. Et vous voyez, on l'utilise contre les migrants dans le sud de l'Espagne, on l'utilise dans des contextes de guerre civile en Irlande du Nord. La Macédoine l'a utilisé également en 2015-2016 sur les migrants qui tentaient de franchir les frontières du pays. En gros, pour résumer le propos, la France est le seul pays actuellement à faire un usage massif de ces armes dans des contextes de manifestation, dans des contextes de manifestation, c'est-à-dire d'exercice de liberté constitutionnellement protégée.
Mais à quand se fait le basculement ? Parce que vous faisiez référence aux années 2000, et j'imagine donc au milieu des années 2000, avec les fameuses émeutes de banlieue, comme on les avait appelées. Seulement, là, vous le disiez vous-même, c'était pas un contexte de manifestation, c'était bien un contexte bien particulier. À quel moment est-ce qu'on commence à l'utiliser en contexte de maintien de l'ordre dans des manifestations ?
Dans le courant de la décennie 2010. Je peux pas être plus précis parce que j'ai pas la chronologie exacte en tête, mais dans le courant des années 2010. Ce qui est intéressant...
Mais c'est une décision politique, alors ?
De toute façon, oui, évidemment. Oui. Alors, mais laquelle ? Est-ce que la décision politique, c'est d'équiper les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire gendarmerie mobile, escadron de gendarmerie mobile et compagnie républicaine de sécurité en flashball et lanceurs de balles de défense? Je ne crois pas. Ces unités-là ont résisté à l'introduction du flashball.
Ils y étaient opposés.
Absolument. Ils y étaient opposés parce que ça n'était pas une arme compatible avec la doctrine de maintien de l'ordre. En revanche, c'est une arme qui pouvait équiper des demi-sections ou des groupes de CRS ou de gendarmes mobiles, aux fins de légitime défense. On est bien d'accord. Mais comme arme de maintien de l'ordre, ils s'y sont toujours opposés. Et à mon avis, de ce que j'entends, ils s'y opposent encore. Donc la décision politique, elle a en revanche été d'équiper les unités mobiles, les unités de sécurité urbaine, alors les brigades anti-criminalité, les diverses brigades de voie publique, les compagnies d'intervention, les compagnies de sécurisation, etc. Toutes ces compagnies ou brigades ou équipes qu'on va appeler sur des dispositifs de maintien de l'ordre comme forces supplétives aux CRS et aux gendarmes mobiles. Eux, on les équipe massivement aujourd'hui avec des lanceurs de balles de défense. Et ils en font un usage comme ils ont l'habitude d'en faire en violence urbaine. Je reviens encore sur cette question de police en banlieue, donc en langage policier, VU, violence urbaine. On a eu des manifestations très compliquées à gérer pour les policiers, notamment les manifestations CIP 2006, les manifestations lycéennes 2008, qui sont des manifestations dans lesquelles des lycéens de toute l'Île-de-France convergent sur Paris, pour prendre part à des manifestations, ce qui sont déclarées, l'itinéraire est entendu, etc. Mais d'autres groupes de jeunes, pendant la manifestation, utilisent la foule pour s'en prendre. Alors, il y a 20 ans, ils s'en prenaient aux policiers, ou ils pouvaient s'en prendre aux magasins, piller, par exemple, les manifestations CPE 1994, mais aujourd'hui, ils s'en prennent aux manifestants eux-mêmes. Ils tabassent, ils dépouillent. Vous avez d'ailleurs eu ici un collaborateur de la maison Radio France qui s'était fait gravement tabasser au cours d'une manifestation CPE en 2006. Et donc, à ce moment-là, les policiers, la direction de l'ordre public à Paris, ont dit « Alors très bien, on peut avoir des dispositifs maintien de l'ordre, mais aussi des dispositifs violence urbaine. Donc il faut qu'on mélange, au fond, les deux types d'actions. Il faut qu'on ait les deux types de forces, les deux types de doctrine, entre guillemets, au même moment, sur le même dispositif. Et aujourd'hui, 10 ans après, qu'est-ce qu'on voit ? Loi travail, et puis, à plus forte raison, gilet jaune. Eh bien, au fond, violence urbaine, maintien de l'ordre, tout ça se mélange, les unités se mélangent, les unités sont coordonnées, peut-être mal coordonnées, et elles suremploient sans doute les lanceurs de balles de défense, les flashballs et les grenades.
Fabien Jobard, on va retrouver un nouvel invité durant les différentes manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu régulièrement des violences, on l'a dit, et certaines ont été le fait de groupes que les médias notamment appelaient des black blocs. C'est un terme qui est désormais qui s'est bien imposé dans le débat public. Il est même devenu quasiment un synonyme de casseur. On va retrouver Francis Dupuy-Derry, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Québec à Montréal, auteur notamment de Les nouveaux anarchistes de l'altermondialisme au zadisme. Vous avez travaillé, Francis Dupuy-Derry, depuis longtemps dans les contextes de violence, donc dans les contextes de manifestations. Vous êtes intéressé au plus près aux groupes anarchistes, altermondialistes et à la manière dont la violence s'y négocie et s'y déploie. D'abord, est-ce que vous pouvez nous aider, Francis Dupuy-Derry, à définir ce que sont exactement les Black Blocs ? Est-ce que ce sont seulement des individus vêtus, masqués, encagoulés qui s'en prennent aux vitrines, au mobilier urbain ? Ou est-ce que c'est aussi autre chose et quoi ?
C'est des gens qui sont vêtus en noir, masqués ou cagoulés, donc c'est pour ça qu'on les appelle les Black Blocs, c'est de là qu'ils tiennent leur nom, c'est de la posture et c'est qu'elle-même. Et cette tactique vient en fait d'un endroit très précis, de Berlin-Ouest, dans les années 80, au tout début des années 80, donc on est en pleine guerre froide à Berlin, et il y a un vaste mouvement de squatteurs qu'on appelle le mouvement autonome, qui existe aussi en Italie d'ailleurs, et qui va se répandre dans les Pays-Bas et ailleurs en Europe dans les années 80. Et ces squatteurs sont les autonomes, donc ont d'autres qualificatifs, on peut parler par exemple de l'ultra-gauche. Donc ils sont critiques de toutes les institutions, ils sont pour une autonomie politique et économique, c'est pour ça qu'ils squattent, mais ils sont aussi autonomes par rapport aux partis de gauche, aux syndicats, aux médias, etc. Et le Black Bloc est une tactique qui émerge de ce réseau, avant tout pour défendre les squats face à des expulsions, et puis ensuite pour se lancer dans des confrontations, par exemple contre des groupes d'extrême droite, ou pour affronter la police dans des manifestations en appui avec les réfugiés, par exemple, ou contre le nucléaire. On est dans les années 80, là, donc il y a toute la question du nucléaire en Europe militaire, entre autres, qui est très importante. Donc les Black Blocs viennent vraiment de là. On ne sait pas exactement qui les a nommés ainsi. Il y a des débats à savoir est-ce que c'est la police qui les nomme ainsi, est-ce que c'est les juges ou est-ce que c'est le mouvement lui-même, mais c'est de là que ça vient.
Et en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'aussi, en tout cas historiquement, j'entends que c'est une tactique, mais c'est aussi une tactique qui était utilisée par des personnes qui étaient plutôt positionnées sur la gauche, l'aile très à gauche de l'échiquier politique. Si on regarde aujourd'hui ce qu'il en est, est-ce que c'est toujours vrai ? Et puis, est-ce que, plus largement, on peut définir des profils, une forme de sociologie de ces Black Blocs, ou est-ce que ça n'a aucun sens ?
Alors, dans la mesure où c'est une posture esthétique qui est très facile à reproduire, on voit un Black Bloc à la télé, par exemple pendant le mouvement altermondialiste, c'est en grande partie les grands médias qui ont favorisé la diffusion de la tactique du Black Bloc, parce qu'à force de couvrir les manifestations à Seattle, par exemple, des gens à Washington ont pris la tactique, des gens à Prague ont pris la tactique, des gens, etc., etc., donc ça a fait un effet de vague. En principe, c'est très difficile, évidemment, par définition, de faire une sociologie ou une démographie ou des statistiques sur les Black Blocs, par définition, parce qu'il y a une question d'anonymat et de sécurité. Mais généralement, on arrive à savoir un peu d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils pensent en regardant leur slogan sur leur bannière, par exemple, les drapeaux. Et donc, généralement, encore aujourd'hui, les Black Blocs sont vraiment clairement associés à l'extrême-gauche anticapitaliste, même si, disons, au-delà de l'idéologie, dans le bloc, on sait, avec quand même des vox pop, par exemple, que des journalistes ont fait pendant le mouvement anti-cot en Angleterre contre ou ailleurs. On sait qu'il y a évidemment des salariés, des gens qui travaillent, qui peuvent travailler dans la fonction publique, des chômeurs. Et c'est relativement diversifié. On n'est plus évidemment dans les années 80 où ce sont seulement des squatteurs qui sont là. Mmh.
Je vais poser une question extrêmement concrète. Comment, lors d'une manifestation, se décide collectivement le choix d'aller casser ou d'aller au contact de police? Est-ce que ce sont quelques individus qui à un moment prennent l'initiative et les autres suivent? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se négocie, qui se discute aussi avant entre les manifestants, entre certains groupes? Ou est-ce que c'est de la totale improvisation sur le terrain?
Techniquement, dans les Black Blocs, il n'y a pas de chef. Ce sont des organisations non hiérarchiques. Il y a par ailleurs des gens qui arrivent seuls ou plutôt isolés, mais on peut aussi partir en manifestation, et c'est pas juste pour aller dans un Black Bloc, d'ailleurs c'est dans n'importe quel rassemblement. On peut partir avec quelques amis, des copains, des camarades. Si c'est un peu plus formel, c'est ce qu'on appellera des groupes d'affinités, qui parfois, dans le cas des Black Blocs, arrivent avec de l'équipement d'ailleurs, dont leur tenue noire, qui souvent, ils arrivent pas nécessairement vêtus de noir. Ils mettent leur équipement sur place. Et généralement, si les gens ont envie de former un Black Bloc ou ont un désir de Black Bloc, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'il y a un espoir quand même que dans la manifestation, il y aura un jeu de tension avec les autorités, éventuellement des opportunités pour cibler des symboles, soit du capitalisme, soit de l'État, etc. Cela dit, je tiens à le préciser, il y a souvent des Black Blocs aussi où il ne se passe, dans des manifestations, où il ne se passe absolument rien de spécial parce que les gens dans le Black Bloc peuvent aussi, pour différentes raisons, soit le rapport de force avec la police, soit... Par exemple, des manifestations, ça s'est vu en solidarité avec des sans-papiers. Par exemple, le Black Bloc peut être là simplement pour exprimer une présence, disons, radicale ou anticapitaliste ou anti-État, mais en sachant très bien que dans une manifestation où il y a des sans-papiers, par exemple, c'est peut-être pas une bonne idée en termes solidaires de se confronter avec la police parce que ça met les personnes avec qui on est solidaire à risque.
Francis Dupuy-Déry, il y a évidemment toujours ou très souvent des violences lors des manifestations, mais c'est vrai que dans ce mouvement des Gilets jaunes que vous avez vous observé depuis le Canada, il semble que la violence ait eu une place particulière au sens où on a senti que c'était un élément dont les manifestants savaient qu'il était incontournable pour espérer faire plier le gouvernement et obtenir gain de cause. Et de fait, ils ont eu raison puisqu'effectivement il y a eu des gestes qui ont été réalisés de la part du gouvernement. Mais et d'ailleurs on l'entendait, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui effectivement dénonçaient ces faits de violence. Mais immédiatement, il la comprenait, il la justifiait par ce sentiment de ras-le-bol un peu généralisé.
Oui.
Vous avez, vous, écrit la préface du livre d'un militant anarchiste états-unien qui s'appelle Peter Gelderlos. Le titre, c'est « Comment la non-violence protège l'État » et qui est sous-titré « Essai sur l'inefficacité des mouvements sociaux ». Et il y revient sur son expérience de militant en Espagne pendant les mouvements des places. Il y défend l'idée que cette forme de militantisme non-violent a pu être à l'origine de l'échec de nombre de mouvements sociaux contemporains. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la stratégie de la non-violence dans les luttes sociales peut être un frein à la réussite? Que nous dit l'histoire des mouvements sociaux sur ce point, et en particulier l'histoire récente?
Évidemment, c'est un débat très complexe de par la sensibilité au sujet de l'utilisation de la force par des personnes qui n'en ont pas l'autorité, disons. Et il y a vraiment un conflit, un débat dans les mouvements sociaux, pas seulement dans la société ou dans les médias ou de la part des autorités publiques, mais qui est presque éternel, en fait, sur... violence, non-violence. Et il n'y a pas, évidemment, c'est pas de la science exacte, c'est pas de la science pure. On rajoute deux grains de salpêtre, un peu de sel et on a tel résultat. Mais disons que des études en sociologie historique, par exemple, sur les vagues d'émeutes incroyables dans les années 60 aux États-Unis, dans les quartiers afro-américains, par exemple, il y a eu des études très précises par quartier ou par ville pour essayer de voir dans les endroits où il y avait des émeutes, est-ce que les communautés afro-américaines ont reçu après plus de services, par exemple, plus d'investissements en financiers pour les aider. Donc, bref, est-ce que l'émeute rapporte, si on peut dire ça comme ça. Et évidemment, ce n'est pas une règle absolue, mais c'est vrai que tendanciellement, des actions plus spectaculaires, donc qui peuvent inclure évidemment des affrontements avec la police ou la destruction de propriétés, effectivement, a plus de chances de faire bouger les autorités, de faire bouger la situation, des fois de l'empirer, parce que dans certains cas, on a aussi observé un accroissement radical de la répression. Donc évidemment, l'État peut aussi décider de jouer le jeu de l'escalade. Et souvent, sur cette question de la non-violence, le problème, c'est qu'on est obsédé par des figures iconiques comme Martin Luther King ou Gandhi, par exemple, mais on oublie toujours de dire qu'à l'époque où ces deux figures incroyables de la plus grande que nature de la non-violence, ou Mandela aussi, on oublie de dire qu'en fait, dans leur mouvement, il y avait à l'époque une violence très importante. Il y avait des gens qui luttaient les armes à la main, alors que eux, dans le même mouvement, prônaient la non-violence. Donc c'est très difficile de savoir si, par exemple, Martin Luther King ou Gandhi auraient gagné tout seuls avec leur tactique.
Oui, on oublie qu'effectivement c'était mélangé. Mais alors justement, précisément, il y a toujours un mélange entre ceux qui prônent la violence et ceux qui prônent la non-violence. Est-ce qu'on peut postuler l'hypothèse que finalement, plus un mouvement social dure dans le temps et plus la non-violence finit par s'imposer? Et est-ce que ça veut dire que finalement la violence comme régime de revendication a une durée de vie limitée?
Si un mouvement effectivement se perpétue, et là je pense que je reviens à mon exemple de Martin Luther King pour la mobilisation pour les droits civiques aux États-Unis contre le racisme, effectivement, si un mouvement perdure, si c'est un mouvement de masse, et s'il déstabilise d'une certaine manière les autorités, effectivement, les autorités vont essayer de jouer la division au sein du mouvement, et par définition, les autorités vont aller plutôt négocier avec ceux qui prônent la non-violence et l'autodiscipline du mouvement et qui essayent, parce que dans les mouvements même, il y a souvent des forces qui essayent d'exclure du mouvement les éléments, disons, les plus turbulents. Et donc là, il y a une sorte, au fil du temps, effectivement, dans plusieurs luttes politiques, on a vu une sorte d'alliance tactique entre les autorités politiques et les porte-paroles autoproclamés ou les chefs autoproclamés du mouvement pour arriver à une sorte d'entente et exclure, en fait, pour un avantage mutuel les plus turbulents. Et ce qui fait qu'à la fin, on a des héros, comme aux États-Unis, qui sont Martin Luther King, avec un jour férié pour Martin Luther King, mais évidemment pas de jour férié pour Malcolm X.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Merci beaucoup Francis Dupuis-Déry. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, auteur notamment de « Les Black Blocs, la liberté et l'égalité se manifestent », c'était chez Lux, et beaucoup plus récemment « Les nouveaux anarchistes de l'altermondialisme au zadisme », c'était chez Textuel cette année. Fabien Jobard, réaction à ce que vous venez d'entendre, votre collègue canadien?
Eh bien oui, je souscris tout à fait aux analyses de mon collègue canadien, en ajoutant toutefois une réserve de prudence, en fait. On peut venir à une manifestation en étant animé de toutes les intentions pacifiques que l'on peut. On peut venir à une manifestation et basculer ensuite dans la confrontation avec la police. On peut venir à une manifestation en décidant d'en découdre avec la police et, comme il l'a d'ailleurs indiqué, n'en rien faire. Beaucoup de ce que l'on observe en manifestation est produit par le cours même de la manifestation. Et ça, d'ailleurs, c'est ce que les policiers eux-mêmes, spécialistes du maintien de l'ordre, vous diront. Le maintien de l'ordre, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Une projection de gaz lacrymogène qui intervient trop tôt ou qui intervient sur qui noie également le public qu'on ne voulait pas toucher, et vous pouvez avoir un mouvement de radicalisation des cortèges manifestants. On se souvient qu'à lors des protestations sur la loi travail, il y avait les fameux black blocs ou cortèges de tête, peu importe, qui venaient avec la claire intention d'en découdre avec les forces de l'ordre, pour toutes les raisons qu'a exposées Dupuis-Déry à l'instant. Et puis, la répression policière, l'action policière, semblait si peu adaptée à ce qui se passait que le gros des manifestants défilait en scandant « Nous sommes tous des casseurs ». Et alors là, c'est un exemple typique de la forme de la manifestation qui est déterminée par le cours même de la manifestation et notamment par les confrontations avec la police.
Ça veut dire, à vous entendre, qu'en fait, quand on gère ce type d'événement, il faut faire preuve de psychologie.
Il faut faire preuve de psychologie, c'est d'ailleurs ce qui est enseigné dans toutes les écoles de police.
Et on parlera justement dans quelques instants de psychologie des foules, Fabien Jobard. Mais d'abord peut-être un mot, on n'en a pas encore parlé, sur la fameuse nouvelle loi anti-casseurs, en tout cas proposée et annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe, avec ce fichier répertoriant les fauteurs de troubles. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait constituer une menace pour la liberté de manifester? Et au-delà, au fond, est-ce que ce fichier serait de nature à vraiment faire reculer la violence au cours de manifestation, puisqu'il s'agit bien de ça?
On a déjà prononcé des interdictions de paraître, des interdictions de se rendre en gros à une manifestation. Amnesty International en a recensé 700 au cours de la loi travail. Ces interdictions avaient été prises sous l'empire des lois sur l'état d'urgence. Mmh. Et donc le dispositif qui est actuellement discuté et qui est loin d'être adopté, c'est un dispositif qui vise à pérenniser ça, c'est-à-dire sur le fondement de soupçons Je pense qu'on ne peut pas l'appeler autrement dans sa rédaction actuelle, sous le fondement donc de soupçons d'intention de prendre part à des violences. On interdirait à des gens de se rendre aux manifestations, comme on a interdit à des supporters violents de se rendre au match de foot. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Hein. C'est le, vous voyez, comme le droit de la manifestation prend au droit hérité, et c'est un droit en grande partie européen, hérité des violences hooligans du début des années 80. Donc là, on va dire, nous avons des renseignements policiers qui indiquent que vous pourriez vous commettre des violences et donc vous allez pointer au commissariat au lieu de vous rendre à la manifestation. Très sincèrement, moi je suis pas oracle, mais au vu même des décisions qui ont été rendues par le Conseil constitutionnel, suite à des questions prioritaires de constitutionnalité, pendant les protestations loi travail, je serais bien surpris de voir le Conseil constitutionnel considérer que on puisse tenir une manifestation, liberté constitutionnelle, pour un match de foot, ou en tout cas gérer les deux de la même manière.
Un match de foot n'est pas une manifestation, c'est ce que...
C'est pas une liberté constitutionnelle,
absolument. Non. Donc, loin d'être adopté. On parlait de psychologie des foules, maintien de l'ordre. On va voir qu'il y a des racines qui vont jusque dans notre histoire française. On va retrouver tout de suite Steve Retcher, qui est un professeur de psychologie sociale à l'Université de Saint-Andrews au Royaume-Uni, spécialiste de la psychologie des foules à partir des années 2010 en s'appuyant sur l'observation des rassemblements sportifs, justement, vous en parliez. Il a opéré aux côtés d'autres chercheurs un véritable tournant dans cette discipline qui a largement influencé les services de police européens spécialisés dans la gestion des foules, tout particulièrement en Angleterre, en Suède, en Hollande et en Allemagne. Alors comment la compréhension des foules a-t-elle évolué au cours du temps? Dans quelle mesure ce tournant théorique a-t-il influencé les manières de concevoir le phénomène de passage à l'acte violent? On va retrouver Steve Reicher, il est au micro de Samuel Bernard, écoutez.
Cette psychologie classique des foules est en fait née en France au lendemain de la Commune. Une époque où les masses, l'agitation sociale, la montée du socialisme et du syndicalisme ont suscité de grandes craintes. Et cette approche a surtout été le fait des élites qui avaient peur de la foule et qui ne la voyaient que comme un danger. Leur plus célèbre représentant est Gustave Le Bon, dont le livre « Psychologie des foules » est paru en 1895. Le Bon disait littéralement que la foule est une horde déchaînée, que plongée dans une foule, des gens habituellement rationnels perdent tout sens commun, perdent leurs repères, font n'importe quoi et se laissent entraîner par leurs émotions. Il disait également que la foule est barbare et que par le simple fait de faire partie d'une foule organisée, l'homme descend de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Cela implique donc que les foules sont par nature dangereuses et que même les personnes les plus correctes se transforment à leur tour en bêtes hurlantes lorsqu'elles se retrouvent dans une foule. Et cela sous-entend alors que vous ne pouvez pas parler à une foule, que vous ne pouvez pas la raisonner, que vous ne pouvez qu'agir avec fermeté et tenter de la réprimer. Qui plus est, parce que chaque personne dans une foule se laisse entraîner, vous allez devoir traiter tout le monde de la même manière. D'où des formes de maintien de l'ordre qui considèrent que la foule est en soi un problème et qui cherchent donc avant tout à avoir recours à la force pour contenir et réprimer la foule.
Alors si je vous comprends bien, Stephen Reich, ce paradigme inspiré des théories de Gustave Le Bon a longtemps été, disons, le soubassement théorique ayant inspiré les politiques de force de police spécialisées dans le maintien de l'ordre. Vos travaux s'appuient, eux, sur un autre modèle, un autre paradigme qui a renouvelé le regard sur la foule avec une approche bien plus compréhensive, c'est le modèle de l'identité sociale. En quoi est-ce que ça consiste, Stephen Reich?
Over the 20th century, increasingly people became dissatisfied with that view.
Tout au long du XXe siècle, cette approche a de moins en moins convaincu et au cours des dernières décennies sont apparus de nouveaux modèles selon lesquels ce n'est pas que les gens perdent l'esprit et deviennent irrationnels dans la foule ce n'est pas seulement perdre pied. Ce qui se passe dans une foule, c'est un glissement, une bascule psychologique. Nous cessons de penser en tant que « je », en tant qu'individu doté d'une personnalité propre, et nous basculons vers une perception d'appartenance à un groupe, d'identité sociale. Donc, nous ne perdons pas nos repères, mais nous passons de nos principes individuels aux normes, aux valeurs du groupe qui vont aller guider nos actes. Du coup, si vous étudiez le comportement d'une foule, vous verrez que bien souvent, il est révélateur des conceptions et des principes qui guident les membres d'un groupe donné, de leur perception de qui est avec eux et qui est contre eux. Pour les historiens, ce qui fait une foule est révélateur des représentations populaires. Donc, la première chose à faire pour comprendre une foule, c'est de comprendre l'identité du groupe, de comprendre ce que ses membres essaient de faire, de comprendre ce qui est légal et illégal à leurs yeux.
Alors au sujet de la violence, j'aimerais souligner un autre point. Selon vos travaux, qui s'appuient donc en partie sur le modèle de l'identité sociale, le recours à la violence peut apparaître dans toutes sortes de groupes en fonction de la manière dont la manifestation se configure. Et dans certaines circonstances, ce sont même des groupes pacifiques qui peuvent recourir à cette violence. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels sont les mécanismes qui, selon vous, permettent d'expliquer un passage à l'acte violent, Stephen Reich?
Permettez-moi de vous donner un exemple pour bien me faire comprendre. Il y a un récit très célèbre de Martin Luther King à propos d'une manifestation du mouvement des droits civiques dans une ville du sud des États-Unis pour pouvoir exercer le droit de vote. Les Noirs avaient alors légalement le droit de vote, mais des fonctionnaires racistes les empêchaient d'exercer ce droit. Et alors que des personnes manifestaient pacifiquement en faveur du droit de vote, des services de police racistes dirigés par un homme appelé Bull Connor les ont attaqués. Ils les ont attaqués à coups de nerfs de bœuf, d'aiguillons électriques pour bovins, etc. Une rare violence exercée contre des personnes qui ne faisaient que revendiquer des droits acquis. Ce qui s'est passé, c'est que ce groupe, cette foule, avait une identité issue du mouvement des droits civiques, lui-même né des églises baptistes du sud des États-Unis, apôtres de la non-violence. Ces personnes s'assoient donc par terre en signe de manifestation pacifique. Et malgré la provocation extrême dont elles font l'objet, en raison des principes et des valeurs inhérentes à ce groupe, elles restent extrêmement pacifiques, même confrontées à une immense provocation. Ce sont des passants qui ne font pas partie de cette foule et qui n'adhèrent pas à ces principes, qui s'indignent devant les abus commis par la police. Ce que cet événement illustre, c'est bien que les groupes ne sont pas en soi plus ou moins violents que les individus, mais plutôt que le comportement des groupes dépend avant tout de leurs normes et de leurs valeurs. Cela dit, l'identité de la plupart des groupes ne repose pas sur la violence ou la non-violence. Il y a des éléments qui vont être des déclencheurs si nous pensons que nos droits ont été bafoués de façon illégitime. S'ils pensent qu'un autre groupe les réprime alors qu'ils essaient de faire quelque chose de totalement acceptable, la plupart des groupes seront prêts à aller au conflit. Pour être encore plus précis sur ce point, vous avez des groupes dans la plupart des foules qui veulent manifester, qui veulent protester et qui veulent exprimer un mécontentement, mais qui ne font rien de violent ni d'illégal. Si alors la police réagit en leur retirant des droits qu'ils considèrent garantis par la loi, si la police adopte une position qui les place en situation d'illégalité, alors, en raison des normes du groupe, les individus seront enclins à aller au conflit. Si en revanche, la police reconnaît qu'ils ne sont pas fondamentalement violents et qu'elle cherche à faciliter leurs protestations légitimes, alors non seulement la foule ne sera pas violente, mais elle régulera elle-même la violence de ses éléments les plus radicaux.
Steve Reicher, au micro de Samuel Bernard. Steve Reicher, qui est professeur de psychologie sociale à l'université de Saint-Andrews. Réaction avec vous, Fabien Jobard, à ce que vous venez d'entendre. J'ai un peu le sentiment que finalement, aujourd'hui, la doctrine de la police française, en tout cas pour ces manifestations des Gilets jaunes, elle s'inspire encore assez largement du docteur Gustave Le Bon de 1895, avec cette idée effectivement que la foule serait une et indivisible, et on aurait peut-être oublié qu'elle est quand même composée d'individualités.
Alors, il est vrai que le bon docteur Gustave Le Bon est vraiment de ceux qui ont eu une influence considérable dans la police. Le premier manuel de psychologie des foules, à destination des gendarmes, précède même de 10 ans la création de la gendarmerie mobile, puisqu'il date de 1910 et il a été écrit par un gendarme. Donc vous voyez, on est, il y a effectivement dans cette réduction de la foule à une unité indistincte, quelque chose qui aujourd'hui pose problème. Alors Les policiers, les concepteurs du maintien de l'ordre savent bien qu'il faut différencier, mais ce qu'on a vu au cours de la loi travail ou ce qu'on voit ici dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est bien souvent une action qui, parce que, par exemple, à Paris, on ne casse pas, parce que on ne manifeste pas sur les Champs-Élysées, parce que la manifestation emprunte un itinéraire qui n'était pas celui prévu, etc. On emploie la force. Alors ça peut être le gaz, simplement. Et le gaz sur des manifestants qui, comme l'a dit un de vos interlocuteurs en tout début d'émission, manifestaient pour la première fois de leur vie, c'est un effet très choquant. Et donc, on observe là ce que Reicher a très bien décrit, c'est-à-dire des processus de création de la foule adverse, de création, d'engendrement d'une foule qui venait pour manifester pour telle ou telle cause et qui reste pour manifester contre la police.
Donc ça veut dire qu'il faut changer de manière de penser. Si on regarde par exemple, et ça sera ma dernière question, le cas de l'Allemagne, parce que l'Allemagne aujourd'hui, elle est un peu dans cette doctrine précisément de la désescalade qu'on évoquait au début de cette émission, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un glissement. Comment est-ce qu'on procède justement à ce glissement? Comment ça s'est fait sur le cas de l'Allemagne?
Sur le cas de l'Allemagne, il y a eu une décision du tribunal constitutionnel qui date de 1985, qui est la décision Brockdorf, et qui impose aux forces de police engagées sur des dispositifs de maintien de l'ordre le principe de déescalation. Et donc ce principe de désescalade est un principe cardinal. Il est vrai que les manifestations étaient gérées dans les années 70, début des années 80, à l'époque des Black Blocs dont on parlait du Pileri, de manière très brutale. Et petit à petit, par exemple à Berlin, attention, c'est un processus de long terme. C'est un processus qui suppose un dialogue permanent. Au-delà même des événements protestataires, on recherche le dialogue avec les groupes antifascistes, avec les groupes anticapitalistes, en permanence pour, au fond, tenter de discipliner leur mode de protestation. Et puis l'Allemagne emploie des moyens qui sont des moyens plus dissuasifs que la France, parce que l'Allemagne n'a pas les mêmes problèmes budgétaires que la France. En France, une compagnie de CRS aujourd'hui, c'est beaucoup moins de fonctionnaires engagés parce que ça coûte cher. En Allemagne, vous pouvez avoir des manifestations dans lesquelles le nombre de policiers présents est deux fois plus nombreux que le nombre de manifestants. Et donc forcément, ça limite les opportunités de casse ou d'expression violente.
Plus de moyens humains, moins d'armes, une décision judiciaire et un accompagnement politique. Voilà finalement la recette de l'Allemagne, d'une certaine manière.
Absolument.
On peut résumer comme ça. Merci beaucoup, Fabien Jobard, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, associé au Centre Marc Bloch de Berlin, co-auteur avec Jacques Demaillard de Sociologie de la police, politique, organisation, réforme, qui était paru chez Armand Collin. Pour ceux qui veulent se plonger encore plus dans l'histoire de la police, c'est un très bon ouvrage. Merci infiniment, Fabien Jobard.
Merci à vous.
On poursuivra notre série consacrée à la police demain. Il est 11h53. Place à Brice Couturier et son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Les guerres de propagande commencent par une lutte pour le sens des mots. Qu'en est-il de la rhétorique populiste ?
Populisme, c'est le mot d'apparence anodine qui sert désormais à décrire le nationalisme xénophobe qui balaie en ce moment de nombreuses parties du monde. C'est en partant de cette observation qu'un professeur de philosophie de Yale, Jason Stanley, invite à analyser la rhétorique populiste. Et il se place sous l'invocation du grand linguiste allemand Victor Klemperer. Ce Klemperer-là, qui était le cousin du fameux chef d'orchestre Otto Klemperer, a laissé un ouvrage mémorable au titre énigmatique LTI pour Lingua Tertii Imperii, en latin la langue du Troisième Reich. Victor Klemperer, comme on peut l'apprendre en lisant les deux tomes extraordinaires de ses mémoires qui s'intitulent « Mes soldats de papier » et « Je veux témoigner jusqu'au bout », est l'un des très rares universitaires juifs à avoir survécu à la période nazie en Allemagne même. Chassé de l'université, chassé de sa maison, traqué par la Gestapo, il n'échappa à la mort que grâce à la ténacité de sa femme et au fait que la ville de Dresde, où le couple résidait, fut victime d'un bombardement d'une ampleur extravagante dans la nuit du 13 au 14 février 1945. Et pendant toutes ces années, Victor Klemperer, qui était un spécialiste de philologie romane et de littérature française, prenait des notes et les cachait. Lui, l'interdit de bibliothèque, rédigeait, outre ces fameuses mémoires dont je viens de parler, une étude des perversions que les nazis avaient infligées à la langue allemande. Car il estimait que c'était notamment en truquant le sens des mots que ce régime avait embrigadé le peuple allemand. Or les nazis, malgré leur disparition de la scène politique allemande en 1945, avaient laissé subsister dans la langue même de véritables pièges qui continuaient à empêcher les Allemands de penser justement. Il traquait, je cite, c'est une citation de Klemperer, sous le mot isolé, la pensée d'une époque, la pensée générale où se niche celle de l'individu. Puisqu'on est prisonnier des mots de sa tribu, que ceci conditionne nos pensées les plus intimes, il fallait donc se livrer à un travail de déminage sémantique. Or, son livre offre deux versants. L'un de déconstruction ironique et vengeresse des topoi de l'idéologie nazie, tels que les relève son usage très particulier de la langue allemande, et l'autre de déminage de l'allemand, afin que les dangereuses charges idéologiques qui avaient laissé l'hitlérisme ne provoquent pas de nouvelles explosions, je cite. Mais la langue du Troisième Reich semble devoir survivre dans maintes expressions caractéristiques. Elles sont si profondément incrustées qu'elle semble devenir un acquis permanent de la langue allemande. Fin de citation. Sans doute aussi ce vieux professeur, juif et patriote, rêvait-il de nettoyer son allemand, de lui rendre sa virginité, de nettoyer sa langue des altérations que le régime ONI lui avait infligées.
Et Brice, on retrouve la même idée chez votre professeur de Yale, Jason Stanley.
Oui, il écrit « Les mouvements illibéraux parviennent à faire progresser leurs idées, certes à travers des élections, mais aussi en infiltrant le discours dans lequel se déroule le débat politique. De tout temps, poursuit-il, les fascistes ont mené en toute conscience la bataille des mots de manière à l'emporter dans la guerre des idées. » Alors certes, Donald Trump est un expert dans cet art de truquer la langue américaine avec ses tweets, mais Jason Stanley fait remarquer que la victoire de Trump a été précédée par des efforts concertés, menés au sein du Parti républicain lui-même par les idéologues du néoconservatisme, pour imposer une certaine rhétorique. Ainsi, dès 1990, Newt Gingrich, le futur président de la Chambre des représentants, avait écrit un mémo destiné au GOPAC, le centre de formation des futurs candidats républicains aux élections. Il était intitulé « Langage, un mécanisme de contrôle clé ». Et il y listait notamment deux séries de mots et de concepts. La première liste était intitulée « Mots optimistes impliquant une positivité ». La seconde, « Mots provoquant le contraste, l'antagonisme ». D'un côté, on trouvait « pro-vie »,« pro-environnement », »,« pro-réforme », »,« force », »,« dur », »,« unique ». Nous, et dans l'autre, corrompus, délabrement, destructeur, avide, hypocrisie, idéologique, attitude permissive, libérale, malade, etc. Eh bien désormais, il existe de tels guides destinés à orienter le débat dans les rangs de l'extrême droite européenne. Daniel Friberg, un leader suédois de l'alt-right, a publié en 2015 un livre considéré dans son pays comme un manifeste. Il s'intitule « La vraie droite revient », un guide pour une véritable opposition, qui inclut ainsi des mots recommandés pour provoquer le débat de manière favorable à la droite extrême, à savoir mondialisation, étranger, cosmopolite, antiracisme. Les mouvements fascistes ont toujours consacré une extrême attention à la guerre sémantique. Hitler, dans Mein Kampf, professait une admiration hypocrite pour la manière dont les Alliés avaient mené la guerre de propagande contre son pays en 1914-18. Pas étonnant que l'alt-right soit en train d'imposer subrepticement ses modes de pensée. Elle a une longueur d'avance en matière de propagande. Certains en Europe et même à gauche se sont mis à parler sa langue sans même s'en douter. Et on appelle ça le populisme.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.